BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis nous retrouverons nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule et puis nos chroniqueurs du jour qui vous parleront des livres d'ailleurs et des livres d'un autre temps. De demain ou du passé. En plus de l'émission, n'oubliez pas évidemment tous nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, la librairie de l'écho pour retrouver tous les programmes dans le détail, toute la référence des livres et des extraits de l'émission. Émission que vous retrouvez dans son intégralité aussi sur YouTube et le site BFM Business. Et tout de suite, place aux auteurs. Ils sont partout dans nos vies, depuis plus longtemps qu'on le croit, certes, mais ils n'ont jamais pris autant de place, y compris dans ce que nos vies ont de plus intime, et ils n'ont jamais non plus autant suscité de craintes et de fantasmes. Ils, ce sont les algorithmes, bien sûr. Comment est-ce qu'ils fonctionnent vraiment? Quelle est leur vraie valeur ajoutée? Qu'est-ce que l'humain peut leur confier? Sur quoi doit-il absolument garder la main? Bien sûr, évidemment, sur la capacité à décider, à choisir notamment. C'est pour ça qu'il n'aura jamais été aussi nécessaire de travailler notre capacité à prendre de bonnes décisions, autrement dit, à faire preuve de discernement. Là encore, comment aiguiser notre discernement, comment le travailler? Eh bien, on va répondre à toutes ces questions avec nos deux invités du jour. D'abord, Luc de Brabander, bonjour.
Bonjour.
Luc, vous êtes philosophe d'entreprise, philo du BCG Anderson Institute, cofondateur de l'agence de communication Cartoon Base, et vous publiez Petite philosophie des algorithmes sournois chez Erol. Et puis François Baer, notre deuxième invité, Saint-Cyrien, ancien officier. Il fonde en 2019 l'école du discernement et publie Le discernement chez Arteg. François Baer, bonjour. On commence avec vous, Luc de Brabander. Une brève histoire des algorithmes, c'est possible, même si les algorithmes sont beaucoup plus anciens que ce qu'on pourrait croire.
Les premiers algorithmes sont grecs, ça date de l'Antiquité. On se posait la question, est-ce qu'un nombre est premier? Ben, ils avaient déjà imaginé des algorithmes. Donc c'est une vieille, vieille histoire. Bien sûr, avec les machines...
Alors, mais est-ce que ça fonctionne toujours pareil, j'ai envie de vous demander?
Mais par définition, un algorithme, c'est une succession d'étapes qui amène nécessairement un résultat. Nécessairement. Donc si vous le faites tourner trois fois, ça va être trois fois le même résultat. Si la machine est plus puissante, eh bien ce sera plus puissant, mais ce sera toujours le même résultat. Les règles de base ne changent pas.
Alors, vous dites un algorithme, c'est de la logique et des mathématiques.
Oui, c'est ça. En fait, moi je suis mathématicien de formation, et j'ai découvert la logique beaucoup plus tard en étudiant la philosophie. En fait, la logique est une science qui, par accident, s'est retrouvée dans le cursus de la philosophie. Pourquoi? Parce qu'Aristote l'a mise au point, parce qu'il en avait besoin. J'ai découvert la logique à 40 ans, mais je me suis dit, mais c'est pas normal, j'aurais dû apprendre ça à 14 ans, comme le théorème de Pythagore. Et en fait, l'histoire de l'informatique a 2000 ans. Et c'est d'une part les mathématiques, Platon, de l'autre part, bon, la logique, Aristote, que pendant 1500 ans, on a essayé de fusionner, ce qu'on appelle le rêve de Leibniz. Aujourd'hui, on sait à Gödel que c'est impossible, mais il y a toujours de la mathématique et de la logique, mais c'est pas la même chose.
Alors, je résiste pas à citer l'exemple que vous donnez, justement, pour montrer que la logique réserve des surprises. Hein. Et l'exemple que vous donnez, c'est, bon, si j'ai 18 ans, je peux voter. Si j'ai 18 ans, je peux conduire. Donc, si j'ai 18 ans, je peux voter et conduire. Et puis, vous dites, ce raisonnement, il semble valide, sauf que vous en proposez un deuxième. Si j'ai 3 euros, je peux acheter un journal. Si j'ai 3 euros, je peux acheter un café. Donc, si j'ai 3 euros, je peux acheter un journal et un café.
Eh ben non.
Eh ben non.
Eh bien, voilà, et en fait, vous mettez le point. La logique, c'est l'étude des raisonnements corrects. En fait, de manière simple, c'est de dire, la logique, c'est l'étude de voir si on utilise le mot « donc » de manière correcte. Et on constate, non, très souvent, on ne le fait pas de manière correcte. Et voilà, c'est tout ça qui est l'histoire de l'algorithme.
Alors, l'IA générative, ChatGPT, qu'est-ce que ça change?
Ah, ça change énormément de choses, parce que En fait, il y a 40 ans, je travaillais déjà à l'intelligence artificielle. Dans un livre, j'ai écrit, il y a 40 ans, j'en parlais déjà. Mais il y a une énorme rupture. Parce qu'à l'époque, on faisait une hypothèse. C'est qu'il était possible de comprendre les règles du langage, les règles de la pensée. Et que donc, si on avait toutes les règles, on les mettait dans une machine, la machine parlerait, la machine penserait. C'est un cul-de-sac. On a abandonné cette hypothèse. C'est une rupture totale. On sait qu'on n'y arrivera pas. Mais ce qui se passe, c'est que la puissance des machines est telle qu'on peut remplacer, le volume d'informations est tel qu'on peut remplacer la logique par la statistique. Effectivement, si on a des milliards de pages, eh bien, on donne l'illusion de la logique. Mais en fait, c'est de la statistique. Donc, c'est une rupture totale. Et ça change tout.
Et ça change tout. Alors, algorithme, pourquoi sournois ?
Ha ! Je cherchais un adjectif. Parce que dans ma série, c'est le septième, j'ai toujours un adjectif. Puis je me dis, je ne voulais pas dire pernicieux, dangereux, non. Parce que je ne veux pas donner la moindre intention à un objet qui est un algorithme. Et j'ai regardé le mot sournois, il est parfait. Ne se dévoile pas totalement. On dit par exemple une maladie sournoise, c'est une maladie qui ne se dévoile pas totalement. Je trouvais que c'est parfait pour qualifier les algorithmes.
Ouais, alors, la question c'est à qui ces algorithmes donnent-ils le pouvoir ? Parce que vous dites, finalement, est-ce que c'est vraiment une centaine de gens sur Terre qui profitent de ces algorithmes qui ont finalement une espèce de pouvoir absolu, quoi ?
Je dirais, dans les faits, oui. C'est peut-être quelques centaines de personnes qui contrôlent comme énormément de choses. Et elles ne sont pas, a priori, mal intentionnées. Je crois que ChatGPT n'est pas malveillant. Mais c'est non-veillant. Aujourd'hui, ChatGPT, pour moi, c'est une langue de bois. Mais ça pourrait devenir une langue de vipère dans des mains mal intentionnées. Donc, il y a trop peu de gens qui s'en occupent et ils sont trop loin et on ne les contrôle pas assez. Je ne veux pas leur faire procès, mais nous sommes un peu en risque.
Alors, Luc de Bramander, vous dites, ces algorithmes, ils permettent finalement de compenser notre ignorance par des lois statistiques, parce que le défi considérable auquel on se retrouve confronté, c'est que plus on accumule de la connaissance, plus on accumule de la méconnaissance. C'est-à-dire que plus on découvre de la connaissance, plus ça ouvre des champs de plus en plus impossible à cerner.
Ça, c'est pas neuf. Je dirais, à la Renaissance déjà, quelconque nouvelle découverte en ouvrait de nouvelles questions. Mais tout est exponentiel aujourd'hui. Et quand on regarde les chiffres, il y a un an, ChatGPT était inconnu, en fait. C'est la aujourd'hui, OpenAI vaut environ 8 fois Renault. Je crois que c'est 80 milliards. C'est des chiffres tellement gigantes. Donc, tout est exponentiel. Donc, des choses qui existent depuis longtemps, comme ce que vous venez de dire, l'ignorance comment, eh bien, ça va de plus en plus vite. Et donc, on va changer de pratique. On doit.
Alors, quand la connaissance croît un peu, l'ignorance croît plus vite encore.
Ben oui.
Mais ça pose aussi un problème à la vérité.
Ah, ça pose des tas de problèmes. Et probablement.
Et donc, donc, la question que vous traitez dans le livre aussi, c'est à un moment, finalement, qu'est-ce que le vrai, quoi ?
Ah, la question, elle est bien. Elle est aussi ancienne. Platon l'a déjà posée. Mais c'est clair qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, les outils de faux n'ont jamais été aussi puissants. Bon, il y a des exemples de faussaires dans l'histoire, mais un bon détective pouvait y arriver. Aujourd'hui, il n'est plus possible de détecter. Aujourd'hui, il y a des machines à faire du faux. Et donc, la réponse, c'est dans le livre de monsieur, le discernement, la pensée critique. C'est changé complètement. En fait, on revient à Socrate, parce que l'art de ChatGPT, c'est l'art du questionnement, c'est le prompt. Et qui a inventé l'idée du prompt ? C'est Socrate, l'art de la question. Et donc, moi, je suis très concerné par l'enseignement, surtout des adolescents. Bien, je crois que le discernement, c'est la pensée critique. Il n'y a plus moyen de contrôler ce qui se passe. C'est de l'autre côté, du côté de l'utilisateur, qu'il y a une posture qui doit être complètement différente. On ne doit plus avaler. Moi, j'ai TikTok, parce que ma petite fille m'a mis TikTok sur mon téléphone. Je regarde ça, et quand je vois que la moitié des enfants s'informent par cela, mais alarme, vraiment, il y a un effort gigantesque de la posture, vraiment, de la pensée critique.
Vous avez une très belle citation de Paul Valéry, le mélange du vrai et du faux est énormément plus toxique que le faux pur. Voilà.
Parce qu'il y a aussi l'indifférence. Aujourd'hui, il y a certaines personnes pour qui le vrai et le faux n'est même plus une question. Si c'est vrai, c'est faux, ça n'a plus d'importance. Donc c'est une espèce d'indifférence à la vérité qui vraiment, vraiment fait peur. Et ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs il y a de quoi vraiment avoir peur.
Quelle est la limite des algorithmes? Parce qu'aujourd'hui, on se dit, finalement, il y a même des travaux que vous citez, où cette espèce de d'illusion qu'on va finir par réussir à faire penser la machine toute seule, finalement.
En fait, le test de Turing, qui a mon âge, 48, en fait, 1948, il a donné un petit peu un mauvais chemin, puisque le test de Turing dit « une machine est intelligente si elle paraît intelligente ». Ça, c'est son test. Aujourd'hui, on y est. Et il faut inventer d'autres tests. Aujourd'hui, les machines paraissent intelligentes. Elles paraissent avoir des émotions, elles imitent parfaitement les émotions, mais elles n'en ont pas. Et donc, on va devoir inventer de nouvelles formes de tests pour avoir de nouveaux paliers. Mais finalement, quelle est la question? C'est qui programme qui? Il y a 40 ans, je reviens, j'avais lu un livre sur l'éducation des enfants. Et la dernière phrase du livre, avec ordinateur, la dernière, c'était, au fond, qui programme qui? Est-ce que c'est l'enfant qui, avec sa souris, fait faire quelque chose à l'ordinateur, ou bien c'est l'ordinateur qui, par un message, fait en sorte que l'enfant bouge sa souris? La question est la même aujourd'hui. Qui programme qui? Est-ce que nous utilisons Internet ou est-ce qu'Internet nous utilise? Eh bien, aujourd'hui, je crois que nous sommes plus utilisés qu'on le pense. Et il faut remettre le conducteur à sa place, l'utilisateur à sa place.
Mais est-ce que, à terme, l'intelligence pourra quand même devenir artificielle ou pas?
Non. Non, je suis catégorique, parce que l'intelligence n'existe pas, elle est multiple. L'intelligence est un concept qui a été étudié par les académiques, disons, depuis 200 ans. Et pendant un siècle, il était au singulier. C'est l'époque du quotient intellectuel. Et finalement, à cette époque-là, être bon en mathématiques était la condition sine qua non. Si on était bon en maths, on était intelligent, sinon, on ne dit pas le contraire. Après la guerre, excellente nouvelle, on parle d'intelligence multiple. Émotionnelle, relationnelle, artistique, et même de multiples intelligences multiples. Et c'est excellent. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Patatras, on remet intelligence au singulier. Il faut se battre, on peut dire une intelligence, ou des, autant que vous voulez. Et c'est vrai, l'avocat peut se faire aider d'une, le militaire d'une, mais l'intelligence n'existe pas. Rien que l'humour, par exemple. Regardez l'importance de l'humour dans la vie. Une machine ne peut pas rire, ne peut pas faire rire. Donc non, je suis catégorique.
Vous dites que l'intelligence artificielle générative et ChatGPT ne sont qu'un coup d'accélérateur foudroyant d'une révolution qui est loin d'être terminée. C'est quoi les étapes d'après?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je crois qu'on n'a pas besoin de faire trop de prospectives pour prendre des mesures dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Il y a deux sortes d'incertitudes. Il y a l'incertitude de type 1 quand la question est dans l'air. Est-ce que Trump va être élu? Bon, quand la question est dans l'air, tout le monde y pense. Mais il y a d'autres incertitudes quand la question n'est pas dans l'air. Et donc là, le but n'est pas d'essayer de prévoir, mais de se préparer. Aujourd'hui, je crois qu'on peut ne plus essayer trop de prévoir. Il y a beaucoup de choses à faire rien que pour se préparer. Dans l'éducation, la justice, la médecine, partout. Le journalisme.
Alors justement, vous l'avez dit, notre capacité à rester les maîtres, finalement, de cette intelligence artificielle dépendra de notre discernement. C'est l'objet de votre livre, Paul Bert.
François
Bert. Paul Bert, vous voyez, le lapsus, le évidemment. Lycée. On doit vous le faire régulièrement. François Bert, le discernement, je viens d'en manquer, à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. Ça veut dire quoi, ça, que ça, il suffit pas d'être intelligent pour décider?
C'est en parfait écho de tout ce qu'on évoquait précédemment, magnifiquement. Si on reste sur cette accumulation de savoir dont on parlait, pour faire la guerre, vous prenez un docteur en histoire militaire ou un chef d'instinct? Pour traverser la jungle, vous prenez un botaniste ou Indiana Jones, vous voyez?
Ouais, j'ai plutôt tendance à prendre Indiana Jones.
D'accord. Voilà. Et donc, voyez bien comment, et ça fait écho aussi à tout ce que vous évoquiez très justement sur les modalités d'intelligence. Moi, j'ai créé une méthode sur la personnalité depuis plus de 10 ans maintenant, où je dis, on est tous, pour donner une image biblique qu'on retrouve un peu dans toutes les civilisations, on est tous prêtres, prophètes et rois. Mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Le prêtre, c'est un professionnel du lien, de l'interaction. C'est comme un médecin Mère Teresa. Qu'importe le sujet pourvu qu'il y ait une densité d'échange. Le prophète, c'est un professionnel du contenu. Ce que vous décriviez très bien sur le côté mathématique, etc. J'ai le savoir, donc je sais tout faire.
Ouais.
On revient à notre botaniste. Mais c'est l'expert chercheur, qui a l'intelligence du savoir pur, mais pas forcément contextuel. Et puis, il y a le roi. Lui, c'est l'urgentiste. C'est-à-dire que l'urgentiste, il est contextuel. Il passe son temps à réévaluer les choses. Et en lien avec tout ce qu'on vient d'évoquer, d'où l'importance de travailler sur les personnalités. Et tout ce qu'on décrit vient aussi du type de personnalité qui nous gouverne. Et donc, effectivement, quand on a des leaders d'influence qui sont des purs cérébraux ou des purs émotionnels, il ne faut pas s'étonner qu'effectivement le savoir soit complètement déglingué. Mais pour le point clé de tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est le rapport au temps.
Mais le, oui, c'est ça. Alors, mais d'abord, mais le discernement, vous le définissez comment ?
Alors, je le définis de deux façons.
Ouais.
La finalité du discernement, c'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent, précisément. C'est un cerveau suffisamment autonome, plutôt que d'absorber ce que vous décriviez très bien, tout ce qui nous vient, et d'être ballotté par les émotions. Et on voit une certaine jeunesse qui n'est que l'envie qui lui prend. Donc elle est perdue, parce qu'elle est ballottée d'une émotion à l'autre. Le discernement, c'est bien la capacité à dire, ça c'est grave, je vais concentrer mes efforts dessus, ça c'est pas grave. Et la deuxième définition, en fonctionnement le discernement, c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. Et on revient sur la modalité d'intelligence. On croit que l'intelligence, c'est que être capable de savoir ou de spéculer. C'est d'abord d'écouter pour voir l'essentiel.
Alors, il y a deux points, moi, qui m'ont paru particulièrement importants. Vous dites, finalement, le meilleur chef, c'est pas celui qui va courir partout, c'est pas la pieuvre qui va s'attaquer à tous les sujets et qui va courir après tout, c'est au contraire celui qui va être capable finalement de choisir les sujets les plus importants et de laisser les autres de côté.
Clairement, c'est-à-dire que ce que fait ce chef-là, c'est la bascule dans la réalité, c'est-à-dire dans le temps. Le contexte, c'est quoi ? Un contexte, c'est quoi ? C'est la réalité dans le temps.
Voilà.
Et voyez, je pensais à ça quand je vous écoutais tout à l'heure. C'est la, ce que j'appelle la troisième règle de la réalité dans mon livre.
Ouais.
Ce qui est juste dans l'ordre de la pensée, c'est ce qui est complet. Ce qui est juste dans l'ordre de l'action, c'est ce qui est simple. C'est pour ça que ce que vous disiez en disant l'accumulation de la connaissance devient de la méconnaissance. Pourquoi ? Parce qu'elle nous perd. Par contre, la connaissance contextuelle, l'art d'un chef de trier pour dire voilà ce qui est essentiel et on va concentrer suffisamment d'efforts pour que ça reste dans la réalité, que ça entre dans la réalité, dans le temps, c'est ça qui fait toute la différence. C'est ce que j'appelle passer de la carte au voyage, de la recension des possibilités à une route unique.
Alors, exactement. Et le deuxième point, mais vous avez déjà commencé à l'aborder, c'est le fait que finalement, on conceptualise trop, on donne trop de valeur à la réflexion, à la pensée, et donc du coup, on pense que c'est la bonne idée, parce qu'on pense qu'on l'a bien conçu.
Exactement. Et sauf qu'on l'évoquait en arrivant sur le plateau, le premier mort de la guerre, c'est le plan. Ça se passe jamais comme prévu, comme disent les militaires. Et donc, ce qui va valider les choses, ce n'est pas la manière dont on les conçoit, c'est la manière dont on les réalise. Au passage, dans les formations au discernement que j'opère auprès de pas mal de cadres dirigeants, je leur dis quoi ? Une décision parfaite, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'on mesure une décision dans l'action. Une décision parfaite, ce n'est pas une décision bien conçue. Si on décide de faire un restaurant ce soir avec tous les critères pour que ce soit parfait, le temps de trouver tous les critères et de les avoir combinés ensemble, il est 23h, on a l'estomac dans les talons, on passe une soirée pourrie. Il vaut mieux aviser le resto d'à côté, mettre toute son énergie pour faire en sorte que ce soit bien vécu suffisamment tôt, et là, ce sera une bonne décision.
Alors, il y a une autre dimension aussi qui est particulièrement perverse, c'est cette accélération du temps qui, en fait, donne la sensation que la communication se fond avec l'action. C'est-à-dire que parce qu'on va communiquer, bah, ça y est, on pense que le problème est réglé, et Dieu sait si l'accélération du temps informationnel et le fait notamment de tous les médias modernes, et on est un peu responsable de tout ça, il faut bien le dire.
Vous avez cette pression-là, et vous voyez, en plein changement politique, moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est pas de la nouvelle communication plus sophistiquée, ouais. c'est de l'action percolée, de la communication restreinte. Hein. Moi, l'image qui m'était venue, vous savez, c'est il y avait eu ce suicide en début d'année, en septembre, je sais pas si vous vous rappelez, d'un jeune adolescent. L'ex-rectrice de Versailles à l'époque avait envoyé un mail, un courrier assez terrible à ses parents. Et elle avait dit, vous comprenez, j'ai plein de choses à faire, quoi. Et on va dire, mais tu ne peux pas dire ça. Ton métier, c'est précisément de te concentrer sur l'essentiel. Et voyez bien qu'il y a et donc face à ça, qu'avait répondu la première ministre de l'époque, de dire, ah, maintenant, il y aura saisine immédiate du procureur. Comme si le problème de l'autorité à l'école allait être résolu par ce module saisine immédiate du procureur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune capacité à dézoomer sur l'événement pour dire, il y a un problème de fond qui s'appelle l'autorité à l'école. Comment on va prendre le temps de là mettre en place
et de concentrer ses efforts sur les priorités. Est-ce qu'il y a quand même une mécanique, une gymnastique du discernement ? Est-ce qu'il y a des exercices à faire pour être meilleur ?
Tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, moi je fonctionne en trois temps, mais je vais répondre précisément à votre question. Déjà, se connaître, parce qu'on est plus ou moins naturel au discernement. ce qu'on a vu dans les fameux moteurs de personnalité. De s'entourer, parce que justement, il y a des gens qui décident bien et vite à côté de nous. Donc, le premier levier, ce serait de s'entourer des bonnes personnes. Quand je vois Einstein en liberté dans une start-up, je lui trouve Indiana Jones précisément en numéro 2. Le troisième sujet, c'est le travail intérieur. C'est-à-dire que là, quand on réfléchit justement au fonctionnement de l'intelligence, je dis que le discernement, c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. Je vous donne un conseil très concret. J'appelle ça le jokari de l'évidence. C'est chaque fois qu'une décision nous taraude, être capable de défocaliser. Il faut faire pareil dans le ressentiment, dans une génération de ressentiment. Défocaliser, laisser reposer, laisser revenir plusieurs fois les choses. Là où c'est intéressant, c'est qu'on voudrait que cette intelligence soit de l'ordre spéculatif, là où elle procède de l'écoute, chose que les gens ne savent pas faire. Ça veut dire se taire, ça veut dire couper ses écrans, ça veut dire être capable d'être seul, laisser s'imposer en soi l'évidence de ce qu'il y a à faire.
Vous dites le discernement, c'est la troisième forme d'intelligence. C'est oui. Quoi les deux autres?
Les deux autres, justement, si je prends Prêtre Prophète 3, il y a l'intelligence cérébrale et il y a l'intelligence relationnelle. Vous voyez, c'est un de mes chapitres clés, sortir du monde bipolaire. Aujourd'hui, il y a tous ce qu'on appelle les hard skills, les savoirs purs.
Ouais.
Il y a tous les savoir-faire émotionnels, les soft skills. On oublie qu'il y a pour moi une troisième modalité d'intelligence, qui est une intelligence hybride, qu'on pourrait appeler le savoir décider, qui est une intelligence qui procède du contexte. Si je le fais en plagiant Descartes...
Et qui est donc improgrammable, en fait.
Et donc improgrammable, voilà. Avec des règles, comme en tactique,
oui. Mais
improgrammable, exactement. C'est-à-dire que quand vous voyez Descartes, quand Descartes dit « je pense donc je suis », il fait un énorme lapsus. Il parle de tous les cérébraux, parce que les cérébraux, les prophètes pensent que ça part toujours de la tête. Ils vont vérifier dans la réalité. Ça part de là. Les relationnels, eux, ils disent « j'ai interagi, donc je suis ». Vous voyez, au niveau médiatique aujourd'hui, il y a des gens qu'importe le sujet, pourvu qu'il y ait de l'émotion. C'est pour ça que je dis, parfois en provoquant, que les médias sont des traders d'émotions. Ils cherchent de l'émotion à vendre. Que fait un chef? Que fait un roi? Il dit « j'écoute, donc je suis ». J'écoute le contexte, j'écoute la relativité des situations. Ou pour vous donner un exemple, si je vous dis que si Saddam Hussein et Kadhafi sont des salopards, assez facilement, vous me direz, oui, ils ont du sang sur les mains, on peut reconnaître ça. Si je vous dis, est-ce que le nazisme et le communisme ont fait des morts? Assez facilement, on va le reconnaître. On va parler des personnes, on va parler des idées. Maintenant, si je vous dis, est-ce qu'il fallait destituer Saddam Hussein et Kadhafi? Là, à tout le moins, on s'interroge. Mmh. On est dans la relativité des situations. Quand on voit le chaos qu'il y a en Irak, voilà. Le chaos qu'il y a en Libye, je ne suis pas certain que la décision s'imposait.
Aucun algorithme ne pourrait la donner.
Et aucun algorithme, bien
mais
sûr.
Mais alors, justement...
Moi, je rejoins complètement...
Mais François Baer, quand même, dans ce monde qui est celui des algorithmes, dans ce monde qui est celui de l'intelligence artificielle générative, de ChatGPT, comment on se comporte, justement? C'est quoi avoir du discernement dans cet univers-là? C'est quoi utiliser intelligemment ces outils-là?
C'est la distance à la règle. Je me permets d'intervenir. En fait, on dit la même chose. Un algorithme, il fait une grève du zèle permanente. Il ne peut pas prendre une distance par rapport à ses propres règles. Regardez, si vous voulez paralyser un aéroport ou n'importe quoi, vous travaillez parfaitement. C'est complètement absurde, parce qu'on ne peut pas faire des procédures. Donc, le discernement, c'est une distance à la règle. Un algorithme ne peut pas le faire. Donc, ce qui nous rejoint, la nécessité de la distance aux algorithmes.
Et pour aller dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en fait, l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent, ça veut dire quoi? Si je fais une coupe de cerveau, un cérébral, la pensée cérébrale, en faire simple, il fait un aller-retour connaissance. On lui soumet un sujet, il sait ou il ne sait pas. Je dis que c'est les Lucky Luke de la décision. Ok? Relationnel, émotionnel, il va prendre les choses juste par rapport à l'émotion. Je vous donne un exemple un peu rigolo. C'est le chef de section de guerre qui le matin dit à son capitaine « Écoutez, on ne le sent pas trop, ça pique un peu les balles. On a parlé au groupe, on ne le sent pas. » Il va juste être dépendant de l'émotion. Là où un chef, il va écouter l'ensemble des choses. Il va dire, oui, j'ai cette information-là. Oui, je sais que ma troupe a un moral pas terrible. Mais au vu de tous les autres éléments que j'écoute, même si, effectivement, si on n'y va pas maintenant, on n'ira jamais. Parce qu'en face, ils ont peut-être un moral pire. Et que c'est le moment ou jamais. Vous voyez, c'est donner aux choses une portée relative dans un contexte.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, Luc de Brabander, Petite philosophie des algorithmes sournois, aux éditions Erol, et François Baer, Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. C'est aux éditions Arthège. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, et puis aussi le chef d'orchestre de la rubrique livre à Alternative Économique, et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, le président... Et oui, et le critique attitré de la Société d'économie politique. Président, il ne sera pas toujours. Critique, il le restera. C'est une place à vie, ça, Jean-Marc.
Ad vitam aeternam.
À la Société d'économie politique. Un seul livre au programme, messieurs, que vous avez choisi. L'histoire économique de la France, de Charles Serfati, aux éditions passées, composées. Christian Chavagneux, allez, un commentaire global sur le livre, une impression générale.
Quel culot ! Un jeune économiste d'une trentaine d'années qui se lance dans une histoire économique de la Gaule à nos jours, en plus tout seul, dans un pays où on a quand même une grosse communauté d'historiens économistes, ouais. D'économistes historiens. Alors, je ne sais pas si c'est du culot ou de l'hubris, mais en tout cas, chapeau pour avoir tenté ce truc absolument que généralement, c'est Jean-Marc qui aurait pu le faire, c'est un truc pour retraiter, ça.
Mais peut-être qu'il s'est dit, j'ai quelque chose à apporter, j'ai quelque chose à dire,
ça, on y reviendra.
Qui n'a pas été dit, Jean-Marc Daniel ?
Oui, je rejoins. Alors, pas quel culot, quelle audace, parce que il a plus essayé d'être positif. Dans le culot, il y a quelque chose d'assez négatif. Le résultat, effectivement, c'est audacieux et ça enlève peut-être un peu du culot. Parce que le résultat, il y a des moments où on se dit il y a beaucoup de digressions, il y a des choses qui ont bizarrement disparu, il y a des choses qui sont apparues. Là, on ne sait pas très bien quel rôle on va leur faire jouer. Ce qui est intéressant, c'est le titre. Ce n'est pas une histoire de l'économie française, c'est une histoire économique de la France. Ouais. Et donc, je trouve que là, l'éditeur a été assez habile dans le choix du titre parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses. Il y en apprend beaucoup de choses. Il y a des portraits qui sont très bien menés, et puis il y a des moments où on se dit, mais il n'a pas parlé de ça, et pourquoi il ne parle pas de ça? Et en plus, quelqu'un de la Banque de France, il y a des moments où on se dit, mais la monnaie, ça ne l'intéresse pas? C'est assez curieux.
Bah, histoire économique de la France, alors si on reprend les grands classiques, il y avait le Asselin, Jean-Charles Asselin, qui s'appelait Histoire économique de la France, lui aussi. Alors, Christian, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre?
Qu'est-ce qui m'a plu ? D'abord, c'est l'effort de synthèse. C'est absolument... Parce qu'il y a vraiment une très, très vaste littérature économique qui est synthétisée là. Et moi, je suis comme Jean-Marc, j'aime bien l'histoire économique. Il y a des choses que j'avais vues, mais je n'ai jamais couvert toute cette période-là. Donc forcément, quand vous ouvrez ce livre, forcément, vous apprenez des choses. Deux, trois anecdotes. Moi, Saint-Éloi, on connaît tous le bon roi Dagobert. Moi, je ne savais pas que Saint-Éloi, c'était le ministre des Finances de Dagobert et qu'il avait fait des choses. Est-ce que vous connaissez Thomas Brichard ?
Non.
Thomas Brichard, j'ai découvert ce personnage important puisque c'est le premier, c'est un maître des monnaies, c'est le premier qui va dire au roi, en l'occurrence Philippe le Bel, vous savez, on peut gagner beaucoup d'argent, vous pouvez, vous le roi, gagner beaucoup d'argent en enlevant du métal, mais en gardant la même valeur faciale de votre monnaie, mais en diminuant le poids d'or ou d'argent, vous allez gagner la différence. Ben voilà, j'apprends que Thomas Brichard est le premier peut-être maître des monnaies qui a dit au roi qu'on pouvait faire ça. Sully, on connaît labourage et pâturage sont les deux mêmes noms. Ce qu'on sait moins, c'est que Sully, il a répudié la dette française. Alors, bon, ça, moi, je le savais, mais quelles conséquences? Et là, l'auteur nous dit 10 points de base de spread par rapport aux meilleurs emprunteurs européens, le fait que Sully répudie la dette. On avait vu déjà avec Jean-Marc le bouquin de Francis Démier sur le 19e siècle et sur la bataille entre elles. Et là, il nous rappelle quand même le rôle clé 1786 du traité Eden-Reynal, traité de libre-échange avec l'Angleterre qui va massacrer l'industrie française parce que les Anglais sont haut de gamme et nous, on est complètement pourris. Ce traité de libre-échange va continuer. Voilà. Il y a plein d'anecdotes, plein de choses. Donc forcément, dans cette synthèse magistrale, plutôt bien faite, forcément, on apprend des choses.
Jean-Marc Daniel.
Oui, je suis assez d'accord avec le fait qu'on apprend des choses. Il y a quand même, c'est beaucoup de la seconde main. D'ailleurs, il y a une bibliographie.
Que
de la seconde main. Il n'est pas allé dans les archives, il n'est pas allé voir. Et donc, il rend hommage aussi à un certain nombre d'auteurs. Certains, il est démoli, comme Duby, Duby. Le mec a rien compris. Pof, comme ça. pof, en deux ou trois coups de cuillère à peau, il démolit Duby. Je me suis dit, à partir du moment où on est en seconde main, c'est les 150 ans de la mort de Michelet, il aurait pu faire du Michelet. Il y a un peu une tentative de Michelet. Il y a quand même des imparfaits du subjonctif, il y a quelques facilités de style. Il y a quand même trois idées que je trouve intéressantes. La première, c'est que ce qui a fait la force de la France, c'est sa géographie. C'est-à-dire que la France, c'est à la fois l'Atlantique et la Méditerranée, et au fur et à mesure que le monde a basculé, la France était toujours là. Elle a commencé sur un axe à l'époque romaine entre Marseille, Lyon, Trèves, et puis ensuite, avec le basculement vers l'Atlantique, c'était Bordeaux, Nantes, Rouen. Alors, elle n'a pas toujours tiré profit de ça, mais elle avait un atout géographique. Le deuxième, c'est qu'elle avait un atout humain, avec le fait qu'elle a toujours été beaucoup plus nombreuse jusqu'au 19e siècle que les autres pays. Et la troisième idée que j'ai trouvée assez intéressante, c'est le fait que, effectivement, dans la Révolution française, qu'on critique beaucoup, la Révolution française a fait pas mal de dégâts, mais surtout, elle a permis, au travers de l'opération des biens nationaux, de sortir des terres qui étaient entre les mains de l'Église, qui étaient totalement mal utilisées, mal cultivées. Elle les a données à des gens qui se sont mis à les rentabiliser. Et alors, il dit, ça fait que la France, finalement, s'est spécialisée sur le plan agricole. Et lui, il dit, c'était pas forcément une mauvaise idée pour un pays qui n'avait pas de charbon de se spécialiser dans l'agriculture. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, mais je trouve que la façon dont il argumente le truc est assez bien menée.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a des idées nouvelles? Vous sentez qu'il était porté par quelle motivation? Est-ce qu'il avait une vision qui était différente? On a cité Jean-Charles Asselin, mais il y a eu François Caron, Ernest Labrousse, Fernand Braudel, etc. Est-ce que il y a un propos en fait dans ce livre?
Non, et moi c'est la critique la plus forte, c'est que tout ça pourquoi c'est quoi la thèse? On a quand même l'école des annales, l'école de la régulation, plein de jeunes économistes, historiens aujourd'hui qui se réapproprient la dynamique du capitalisme et qui essaient de l'expliquer. Là, la thèse du bouquin, c'est... Il n'y en a pas. Il n'y a pas de thèse du bouquin. C'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est un jeune économiste formé... Je pense que c'est dû à sa formation. Parce qu'aujourd'hui, quand on forme des jeunes économistes, on forme des experts. Et donc là, c'est un bon élève. Il a fait toutes les bonnes écoles. Hein, et sa thèse avec Daniel Cohen, machin, MIT, et tout ce que vous voulez. Il a fait toutes les bonnes écoles. Mais le bon élève a fait des synthèses de bon élève. C'est-à-dire que vous avez sûrement tout ce qu'il faut lire sur tel et tel sujet. Bon, évidemment, quand vous traitez un peu plus de 2000 ans d'histoire... En 400 pages, dès que vous connaissez un peu le sujet, vous êtes frustré. Parce que vous dites, ah, mais il n'a pas parlé de ça, mais il n'a pas parlé de ça, mais il n'a pas parlé de ça. Quand vous ne connaissez pas le sujet, c'est une bonne introduction. Et puis surtout, c'est quand même une histoire économique de la France. Et l'économie, pour lui, n'est que l'État. Quand est-ce que l'État va réussir à prélever des impôts? Combien l'État va dépenser? Les acteurs privés, les entreprises, il n'y en a pratiquement pas une seule dans tout le bouquin, sur 450 pages de bouquin. Il n'y a pas un entrepreneur qui est cité, il y a Jacques Coeur qui est cité comme ça, à trois lignes ici ou là, mais sinon il n'y a pas un entrepreneur, pas une entreprise. Pour une histoire économique de la France, il manque quand même des gros acteurs. Donc voilà, moi je pense que, moi c'est ma critique principale. Bon, on est frustré parce qu'en 450 pages, mais bon, si c'est déjà quand même 450 pages, il faut se les enfiler. Dommage qu'il n'y ait pas d'entreprise et d'acteurs privés, et surtout qu'il n'y ait pas de thèse, que ce soit juste une synthèse, une succession de synthèses sur plein de sujets, et franchement, dès qu'on connaît un peu un sujet, on se dit... Ah mince, non, il manque ça. Mais c'est la règle du jeu de la synthèse.
Jean-Marc Daniel.
Oui, je partage pas mal l'opinion de Christian. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est que il se perd dans des détails. Il y a un portrait de Charles VIII où il nous explique qu'il est mort en se fracassant la tête sur un linteau dans une porte armoise.
C'est un classique.
Et oui, c'est un classique, on le sait. C'est peut-être pas la peine de... Et puis, il manque des statistiques. Même pour la période la plus récente, qu'il n'est pas exactement le PIB sous Charlemagne, je comprends. Mais il a le PIB quand même depuis, grosso modo, au moins 1945, il n'y a pas une statistique, il n'y a pas un tableau, il y a deux ou trois figures, il y a deux ou trois graphiques, mais il n'y a pas... De même, encore une fois, les problèmes monétaires sont relativement absents, on n'entend jamais parler du SME, un peu de Maastricht, mais bon, on n'entend pas parler de ça, et là où je rejoins encore une fois Christian, c'est que c'est l'État, les impôts, la géographie, mais le paysan, il a... Mais la vie quotidienne du français, à un moment donné, il explique pourquoi Lyon joue un grand rôle, mais on ne voit pas Lyon, en fait.
C'est deux paragraphes. Oh, alors que quand Lyon est au cœur du commerce mondial, il y a tellement de choses à raconter. Hein.
Ouais. Et donc, il en ressort quelque chose d'assez confus et d'assez décevant, en fait.
Oui, mais vous, alors là, si je vous écoute, évidemment, à 1000 pages, ça aurait pu
faire l'affaire.
Mais est-ce qu'il y a un intérêt à cette concision, quand même?
Mais c'est pas vraiment concis. C'est là que je ferai un reproche à l'éditeur. Il avait bien commencé en choisissant le titre, l'éditeur. Le problème, c'est qu'il lui a pas... Il rend hommage à son éditeur, d'ailleurs, à la fin. Évidemment, il rend hommage à sa femme, à ses enfants, à sa fille qui vient de naître, etc. Et à son éditeur. Moi, j'aurais été l'éditeur, j'aurais dit ce que vient de dire Christian. Quelle est votre thèse? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut nous parler de la mort de Charles VIII? Est-ce
qu'il faut nous dire que Henri III était un salaud? Est-ce qu'il faut nous expliquer que Duby est un incapable?
Oui, c'est ça. Voilà, déjà ça, rien que ça, c'était bon. Rien que ça, c'était une approche.
Voilà. Mais non, mais démontrez-le. Et si vous avez une thèse, suivez-la depuis la Gaule jusqu'à Mitterrand, enfin jusqu'à aujourd'hui.
Christian.
Oui, pareil, moi c'est ça qui m'a gêné. Je me suis dit, quel jeune économiste trentenaire, qu'est-ce qu'il va nous démontrer? Surtout qu'il y a quand même des gros débats aujourd'hui. Et dans sa génération, il y a beaucoup d'économistes historiens parce qu'ils sont revenus à l'étude du thème du capitalisme qui avait été mis de côté. On sait que l'école des annales était partie sur l'histoire des mentalités avec Michel Vauvel, avec l'histoire culturelle. Quand on regarde le bicentenaire de la Révolution française, par exemple, où il n'y a pas la partie consacrée à l'économie, et toute petite là, on a un jeune auteur qui nous dit... L'économie, c'est important, vous voulez faire l'histoire de la France. Il faut faire l'histoire économique de la France pour la comprendre. Et voilà, on se retrouve, je suis entièrement d'accord avec Jean-Marc, avec zéro thèse. Quand même, l'école de la régulation, l'école des annales qui est là, évidemment plein d'auteurs cités, on a une vraie tradition économique française de réflexion sur on pense qu'on en veut. On prend les uns, on prend les autres, on prend les auteurs qu'on veut. Mais il y a une vraie tradition française de réflexion sur la dynamique, sur le long terme, sur la longue durée. Et là, on se retrouve, juste comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un expert qui nous fait de belles synthèses.
Oui, mais qui souvent, d'ailleurs, ce que vous dites, ce genre de livre, c'est plutôt des ouvrages collectifs, en général.
En plus, parce qu'on a plein de spécialistes des différentes périodes.
La seule chose sur laquelle je dirais un élément très positif, c'est qu'il fait un portrait de Colbert, j'étais presque convaincu.
Colbert, qui était un défenseur de la liberté du commerce. Il le redit là, mais c'est pas l'image qu'on a trahi les ultralibéraux comme Jean-Marc Daniel. C'est la véritable image.
J'étais presque convaincu. Je dis bien presque.
Mais c'est vrai.
Bon, Christian était au moins convaincu. Merci.
Mais est-ce que tu as été convaincu par le portrait de Turgot?
Évidemment.
C'est-à-dire?
Mais non, justement, Turgot ne s'en sort pas très bien.
D'accord. C'est pour ça que Christian était convaincu. Merci à tous les deux. Allez, on retrouve nos chroniqueurs, Marjorie Adelson et puis Benaouda Abdedaïm, bien sûr.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Bonjour Marjorie.
Bonjour Emmanuel.
Marjorie, journaliste à la rédaction de BFM Business, qu'on est ravis d'accueillir comme bibliothécaire. Marjorie, vous avez choisi un livre. Alors, donc Christian Chavagneux, vous avez brièvement parlé une fois en fin d'émission dans la dernière minute et qui a retenu notre attention. Et vous allez voir, ça vaut le coup, c'est « Histoire des épices ». Au Moyen-Âge, Marjorie.
Oui, et comme son nom l'indique, ça parle d'histoire et d'épices, mais pas que. On est vraiment en fait à la croisée entre la géopolitique, l'économie et la cuisine, bien sûr. Alors aujourd'hui, les épices, elles servent surtout à relever nos plats, mais à l'époque, c'était des produits de riche, d'opulence, et c'est ce que montre justement l'auteur Michel Ballard.
Alors justement, Marjorie, dites-nous quelques mots sur Michel Ballard.
Il est professeur d'histoire en fait à Paris Panthéon Sorbonne. Il est spécialiste du Moyen Âge et c'est aussi un ancien membre de l'école française de Rome. On lui doit notamment une quarantaine d'ouvrages sur le lien entre monde latin et monde byzantin.
Alors, ce qui montre bien, c'est le côté exceptionnel des épices à l'époque. C'est-à-dire qu'avoir des épices sur sa table, c'était vraiment le must absolu, quoi.
Exactement, que ce soit le clou de girofle, la cannelle, le gingembre, c'était aussi un symbole de bonheur. Et on pensait même, figurez-vous, que jusqu'au Xe siècle, que les épices descendaient directement du paradis.
D'accord, parce qu'en fait, c'est vrai que ça servait à tout.
Oui, en fait, les usages étaient vraiment multiples. En fait, c'était pour des médicaments, pour la teinture, pour la conservation, même pour le parfum. Par exemple, si on prend l'exemple du poivre, c'était utile pour la conservation de la viande, notamment. Mais c'était aussi utilisé comme remède contre la toux ou encore l'asthme. Autre exemple, par exemple, la myrrhe, qui est une sorte de résine originaire du Yémen. Elle permettait d'embaumer les corps et elle était aussi utilisée en parfumerie grâce à son odeur de fruits.
Alors, ce qui est effectivement intéressant, c'est la place que tenaient les épices dans le monde de l'époque, au Moyen-Âge, mais c'est surtout qu'on voit à quel point, finalement, les épices ont dessiné, la géopolitique et l'économie de l'époque, la mondialisation.
Exactement, parce qu'il fallait aller les chercher, ces épices, il fallait aller créer des routes, et on peut dire un petit peu que justement, cette espèce de quête, c'était un peu l'ancêtre de la mondialisation. Alors, dans un premier temps, ce sont les Arabes et les Mongols qui approvisionnaient l'Occident. Pendant longtemps, c'était Alexandrie, en Égypte, qui était le comptoir principal avec des produits venus d'Extrême-Orient. Et d'ailleurs, l'une des motivations des grands explorateurs, c'était justement les épices. Ils en ont eu marre de passer par les marchands étrangers et ils ont donc choisi de créer les routes pour s'y rendre eux-mêmes. C'est le cas de Marco Polo, par exemple, mais aussi de Vasco de Gama.
Alors, ce qui montre aussi, c'est tout l'écosystème qu'il y a. C'est pas que les bateaux, les explorateurs et les épices.
Exactement. C'est le système a dû complètement s'adapter. Par exemple, les cales de navires, elles ont dû être modifiées pour pouvoir transporter ces épices sans être abîmées. Et puis, il y avait un peu, comme au CAC 40, un peu aujourd'hui, tout un système de spéculation autour des épices les plus recherchées. Les prix variaient en fonction de l'arrivée des bateaux, de si les bateaux avaient croisé des pirates ou encore des politiques fiscales qui était appliquée par les pays qui avaient justement ces fameuses épices.
Marjorie Adelson qui nous a donc présenté cette histoire des épices au Moyen-Âge et on continue de voyager, mais à notre époque avec Benaouda Abdelhaïm, notre globe-trotteur, vous allez découvrir sa moisson d'études glanées dans le monde entier.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Cher Benaouda, bonjour.
Bonjour.
Benaouda, on démarre notre tour du monde, le premier de l'année, avec l'économie palestinienne de Jérusalem face à l'occupation israélienne.
Alors c'est un travail d'évaluation sorti il y a quelques jours seulement par le MAS, c'est l'Institut de recherche sur la politique économique de la Palestine qui est basé à Ramallah. C'est un travail qui est financé par le Fonds arabe de développement économique et social. Alors, ces économistes concentrent leurs propos sur Jérusalem-Est, intramuros, la partie palestinienne donc de la ville, la description d'un nouvel effondrement depuis que la guerre a éclaté avec les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Leur thèse est que l'État israélien ne fait en fait qu'accélérer l'exécution de plans destinés à briser la résilience des habitants en combinant un recours à la force armée et un recours au système judiciaire israélien. Le résultat, selon les auteurs, est que la dépendance à l'activité israélienne va encore s'accroître dans les mois à venir. La capacité à faire émerger ou bien maintenir des alternatives locales de marché va être entamée, ce qui va amoindrir, disent-ils, le degré d'autosuffisance de Jérusalem-Est et de ses 311 000 habitants. Les matières premières pour les petits ateliers industriels ne rentrent plus, la main-d'œuvre dans la construction ne peut plus circuler, autre activité très affectée, celle du tourisme qui représente, nous disent-ils, autour de 40% des revenus de la ville, le taux d'occupation des hôtels s'effondre, les faillites se profilent en nombre. Or, déjà en 2017, il y avait 1480 chambres de dénombrées. En 2021, il n'y en a plus que 763.
Ah ouais.
Et ça, on s'achemine encore en dessous. En conséquence globale, les recettes budgétaires disparaissent, ce qui immanquablement accroît le délabrement des services publics locaux de la ville. Or, les données sur l'endettement du secteur hospitalier, par exemple, se trouvaient déjà à un niveau particulièrement élevé. Les établissements scolaires également ont de plus en plus de mal à fonctionner au jour le jour. Le constat étant que nombre d'élèves et d'étudiants préfèrent renoncer. Ils deviennent ainsi des travailleurs sans qualification ou au chômage, avec, je cite encore, des risques sociaux considérables auxquels cette jeunesse de Jérusalem-Est est toujours davantage exposée.
Avec les perturbations du trafic maritime dans la mer Rouge, Benaouda, on revient sur l'importance du canal de Suez pour les flux énergétiques mondiaux.
Oui, effectivement, on a à l'esprit cette période de très forte tension en mer Rouge et en mer d'Arabie, et avec les frappes d'Arabellon, yéménites, outils visant certains navires commerciaux. D'où, en effet, l'intérêt de revenir dans un travail de mise en perspective, de recherche sur de précédentes périodes de perturbations autour de cette voie de transit pour 40% du commerce maritime mondial. Deux chercheurs saoudiens du centre CAPSARC, qui se trouve à Riyad, nous apportent ici un nouvel éclairage sur ce qui s'est déroulé au début du printemps 2021. Souvenez-vous, c'était l'accident d'un immense porte-conteneur qui avait dévié de sa trajectoire et qui s'était retrouvé coincé dans une section à voie unique du canal de Suez. C'était la première fois, nous rappelle-t-il, que l'infrastructure fermée durant toute une semaine en raison d'un événement qui ne relevait pas d'un conflit. Mais le résultat est le même, somme toute. Raïd Mesnir et son co-auteur expliquent en détail comment cet échouage a encore exacerbé alors le chaos des chaînes d'approvisionnement du fait des confinements en période de pandémie. L'évaluation avancée des dégâts commerciaux à cause de l'Ever Given, c'est le nom du bateau, 400 millions de dollars. Pratiquement 90 tankers transportant du pétrole, du gaz naturel liquéfié sont restés bloqués dans un sens ou dans l'autre. Pour certains pays européens, et on le voit en détail, c'est intéressant, la Grèce en premier lieu, mais aussi les Pays-Bas, la France, l'Italie, ça a pesé, montant à l'appui. Et c'est là que les alternatives terrestres et maritimes possibles sont étudiées en détail dans ce document saoudien. Et aucun, selon les auteurs, n'offre la même flexibilité, le même rapport coût-efficacité et les mêmes avantages opérationnels et logistiques que le canal de Suez. Il est irremplaçable, d'où, selon ces deux chercheurs, la nécessité, pour ce qui concerne les flux énergétiques en particulier, de s'assurer que cette infrastructure égyptienne vitale bénéficie de toutes les améliorations techniques requises pour le bien du commerce mondial.
Alors, tout autre sujet, Ben Aouda, mais nous sommes à l'orée d'une année extrêmement sportive. On revient sur la VAR, la vérification vidéo des faits de jeu. En fait, alors, est-ce que la VAR atténue ou pas la partialité de l'arbitre de football professionnel?
C'est une recherche économique, scientifique, par deux économistes universitaires, l'un brésilien, l'autre russe, qui est à Saint-Pétersbourg. Et ils s'interrogent ensemble à partir de 2279 matchs joués en Ligue brésilienne entre 2016 et 2021, la première ligue. Alors, trois saisons avant donc et trois saisons après l'introduction de cette technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage qui fait tant parler. Et c'est de la sorte qu'ils ont été en mesure de déterminer, encore une fois scientifiquement, un paramètre de partialité dans la prise de décision censée par nature être impartiale, celle de l'arbitre. On dépasse donc le seul cadre d'une activité sportive professionnelle. La machine objective en soi, a priori, est censée effacer le biais de l'injustice. Tadeu Gasparetto et Kirill Loktionov démontrent ici qu'elle perdure malgré tout, même si elle diminue. On passera sur toute la partie historique qui amène à la VAR. Les amateurs du sujet pourront aussi se référer à la méthodologie en fonction des critères et incidents de jeu modélisés par ces deux économistes. L'outil technologique, quoi qu'il en soit, a amené à ce que l'équipe visiteuse, celle qui est a priori la plus vulnérable, se soit vue en moyenne attribuer moins de cartons jaunes, ce qui peut être interprété comme une imperméabilité accrue à la pression dans le jugement de l'arbitre. Mais lorsqu'il s'agit du carton rouge, c'est-à-dire de l'exclusion d'un joueur qui est amené par la vidéo et qui amène en quelque sorte l'impondérable de la partialité, alors on revient au même niveau supposé de partialité. Le VAR agit aussi comme un outil de renforcement, nous disent-ils, de l'expérience de l'arbitre dans sa prise de décision. Plus il est expérimenté, mieux il maîtrise l'instrument. Pour les auteurs, il y a toutefois une inconnue. Ils expliquent que leur modèle économétrique ne permet pas d'identifier les raisons pour lesquelles le biais, la partialité régresse. Uh-huh. Ce qui, selon eux, doit amener des travaux scientifiques sur l'effet de telle ou telle pression psychologique dans la prise de décision d'un acteur dont dépend le bon fonctionnement d'une activité professionnelle. Celui dans le football permettrait alors d'éclairer ensuite l'effet de cette nature dans bien d'autres secteurs d'activité, que ce soit au Brésil ou ailleurs.
Merci beaucoup, Ben Aouda Abdelhaim. Absolument passionnant. Cette pièce qu'on versera au dossier ô combien animé sur la VAR. Tiens, on transmettra à nos camarades de RMC et de l'Afterfoot qui s'écharpent régulièrement sur le sujet. Voilà, on transmettra. Et bien voilà, c'est presque la fin de cette librairie de l'écho, sauf qu'il reste à vous présenter nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui?
Un livre qui porte sur, alors j'ai envie de dire, la transition écologique, mais ce n'est pas vraiment ça. Parce que le livre de Patrick Vivret et sa co-autrice nous dit, quand on parle de transition écologique, on nous dit toujours, ça ne va pas, le aquabonisme, ou alors c'est l'effondrisme, on va tous mourir. Tout. Non, il nous dit, c'est un philosophe, donc il nous dit, il faut prendre ça...
C'est quoi le titre du livre, Christian?
Comme une métamorphose. C'est la métamorphose, je crois.
Ah,
que
la métamorphose.
Ça s'appelle, il me semble que le titre...
La traversée,
voilà. Et en fait, pourquoi je pense à la métamorphose? Parce que Patrick Vivret et son co-autrice nous disent, en fait, il faut penser la transition écologique comme une métamorphose de la chenille au papillon. C'est très dur de passer papillon quand on est chenille, mais tout le livre va nous détailler comment on peut y arriver, et comment on peut y arriver en suivant le rêve. Donc le rêve, c'est la résistance, c'est l'expérimentation, c'est la vision, et puis le dernier E, c'est celui de l'évaluation démocratique. Donc c'est un livre plutôt positif qui positive notre imaginaire vis-à-vis de la transition écologique.
Ça va vous plaire, ça, Jean-Marc Daniel.
Oui, il me va falloir voilà, beaucoup la chenille
qui se transforme en papillon. Voilà, c'est tout à fait. Oui. C'est tout à fait pour vous. Il est gentil. Oui. On est pour ce début d'année avec vous. Vous avez choisi quoi, Jean-Marc Daniel?
Alors, le dernier numéro de la revue de la documentation française, Les Cahiers Français, qui est consacré au logement. Alors, c'est un problème dont on parle beaucoup. On annonce que ça va être la grande crise des années qui viennent. Là, il y a un dossier qui est un dossier qui est assez factuel et ils l'ont bien appelé le logement et pas l'immobilier. Ils montrent bien que le véritable enjeu, c'est pas la promotion immobilière en tant que telle, c'est notre vie quotidienne. Donc, ils regardent les problèmes des DPE, ils regardent les problèmes de la constitution des mégalopoles dans lesquelles nous vivons, etc. Et donc, c'est un dossier qui est très informatique, assez complet et que je recommande.
Allez, moi je termine avec la 7e édition. C'est un bouquin annuel qui sort 40 innovations retail. Ce sont nos amis d'Aristide, pilotés par Rodolphe Bonas, qui publient ça tous les ans. Tous les ans, 40 innovations retail. Ils parcourent le monde pour nous faire part des expériences les plus délirantes en matière de commerce. Et vous verrez que cette édition 2024 ne manque pas d'idées originales. Je vous en cite une, moi par exemple, qui m'a bien plu. Ça s'appelle Finavia Relove. C'est le premier duty-free de la seconde main. Voilà, vous pouvez maintenant trouver des duty-free de seconde main. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.